Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais aller sur cette crise des agriculteurs qu'on a largement vue sur les axes principaux de France ces jours-ci. Alors, la première chose, c'est quelle est la situation des agriculteurs et de l'agriculture ? Alors, en Occitanie comme en France, le nombre d'exploitants agricoles, de co-exploitants et d'associés actifs est en baisse, une baisse historique. Elle a perdu, par exemple, cette population, 14% de ses effectifs en 10 ans. Donc, ça continue, une baisse constante. Mais, en parallèle, la surface par exploitation, elle grimpe de façon constante puisqu'elle a triplé depuis 50 ans, dont deux phénomènes avec des courbes qui se croisent. Alors, dans les activités, le maraîchage, lui, est complètement laminé. Il faut savoir que dans les années 90, la France était autosuffisante pour les produits maraîchers. Ben, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on importe un peu plus de la moitié, entre 50 et 60% de produits maraîchers, ce qui est quand même assez scandaleux. Un pays comme la France n'est plus non plus autosuffisant dans le domaine du lait, c'est quand même extraordinaire, comme celui de la viande. On va y revenir dans le détail. Pour ce qui est des revenus des agriculteurs, l'INSEE donne des chiffres par foyer et pas par personne, ce qui est un problème, en intégrant en plus le revenu hors exploitation, car dans un certain nombre de couples, un des deux exploitants travaille ailleurs qu'à la ferme. Mais on a quand même réussi à extraire en quelque sorte des informations plus précises. Et si on regarde le revenu par personne, il est en moyenne légèrement inférieur au SMIC. Alors évidemment, c'est une moyenne. Il faut faire toujours attention à ces moyennes. Les revenus sont en tendance plus faibles encore pour les maraîchers, pour les éleveurs bovins, que ceux des viticulteurs et des céréaliers, donc des différences conséquentes dans ces moyennes. Historiquement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le revenu des agriculteurs chute considérablement. Voilà pour les grandes lignes de cette situation des agriculteurs. On va y venir un peu plus dans le détail. Alors avant d'aller plus loin, quelles sont les revendications ? Eh bien, quelles sont les revendications ? Ça dépend à qui vous posez la question. Soit d'aller toujours plus loin dans l'agriculture productiviste, laissant de côté les problèmes environnementaux. Vous savez qu'un certain nombre d'entre eux réclament le fait qu'il ne faudrait pas interdire le glyphosate, par exemple, avec des agriculteurs qui ne sont pas payés pour le fruit de leur travail, mais par différents artifices, des subventions, l'installation de panneaux photovoltaïques, j'en passe, et des meilleurs. Une sorte de fuite en avant, en quelque sorte. Mais c'est le modèle actuel de développement ultralibéral mené par la France et l'Union européenne, privilégiant ainsi l'industrie agroalimentaire et la grande distribution qui dégage de grosses marges et accentue l'inflation. Et ce sont les paysans qui, eux, sont captifs et captives de ce système concurrentiel qui doivent produire toujours plus et toujours moins cher pour survivre, en remboursant les emprunts de financement d'un certain nombre d'infrastructures, une sorte de cercle infernal qui mène parfois certains d'entre eux au suicide. Au nom de cette compétitivité, donc la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire dans la profession, il s'attaque aux normes environnementales qui seraient, d'après eux, le problème environnemental et sanitaire, dans le sens d'une mise en concurrence des paysans du monde entier. C'est donc une fuite en avant destructrice, car les normes, lorsqu'elles sont bien pensées pour accompagner les paysans, finalement, à les mettre en œuvre, ces normes, peuvent aussi être protectrices pour eux-mêmes. C'est notamment le cas des produits phytosanitaires dont ils sont les premières victimes. Donc cette concurrence libre et non faussée sur un marché mondialisé ne profite en réalité qu'aux actionnaires des grandes multinationales et affaiblit toujours le monde paysan, une sorte de spirale en quelque sorte. Les solutions ne résident donc pas dans le maintien d'une agriculture productiviste qui surendette les paysans et qui est mortifère pour la biodiversité, pour les ressources en eau et d'une façon générale pour la santé. Je vais m'expliquer un peu plus là-dessus. Donc face à cette urgence sociale et écologique en même temps, il faut se sortir des accords de libre-échange qui mettent en péril l'agriculture paysanne. Il faut prendre des mesures fortes pour la création de centaines de milliers d'emplois dans le monde paysan, puisqu'on en perd et on en perd beaucoup trop, pour assurer aussi un revenu permettant aux agricultrices et agriculteurs de vivre dignement de leur travail, tout en répondant aux enjeux environnementaux majeurs. C'est en tout cas le point de vue de la Confédération paysanne, dont l'analyse et les revendications méritent d'être connues. Alors, parmi lesquelles, l'aide au développement de l'agriculture biologique, la relocalisation de production agricole sur le modèle d'une agriculture paysanne pour répondre aux besoins locaux et régionaux, l'instauration de prix minimum d'entrée sur le territoire national pour réguler les marchés, en particulier l'interdiction d'achat de produits agricoles en dessous de leur prix de production, puisque ça se fait, la lutte contre la spéculation et toutes les formes d'accaparement du foncier, le partage équitable des ressources nécessaires à l'agriculture, je pense à l'eau en particulier, et la création de nouveaux droits sociaux pour les agriculteurs et agricultrices, et je pense en particulier au droit au repos. Il faut instaurer une priorité absolue à l'installation, transmission pour le renouvellement des générations. Aujourd'hui, pour 4 départs dans la profession, il y a seulement une entrée, donc on voit que la situation est dramatique de ce côté-là. Alors j'en viens à ces accords de libre-échange pour comprendre un peu de quoi ils retournent. Qu'est-ce que c'est ? Un accord de libre-échange réduit, voire annule complètement, les taxes douanières. Il permet donc d'ouvrir les vannes des importations. La question qui se pose, est-il normal de manger en France de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, du bœuf qui vient d'Argentine ou du poulet qui vient du Chili ? Est-ce logique ? Dans cette concurrence faussée par rapport à l'abattement des taxes douanières, il y a aussi cette différence, voire l'inexistence complète, de normes sanitaires et l'utilisation de produits phytosanitaires interdits en France. Donc c'est une concurrence faussée, puisque un certain nombre de pays ne respectent pas les mêmes normes que nous autres. Et quand je dis les mêmes normes, on pourrait dire qu'ils n'en ont pas. Alors, on parle beaucoup en ce moment de la révision de l'accord dit Mercosur. Mercosur, c'est en gros pratiquement toute l'Amérique latine, avec finalement de nombreuses critiques, mais il faut savoir qu'il y a d'autres accords qui méritent également d'être critiqués de libre-échange. Ils ont été votés au niveau européen par des groupes politiques qui d'abord ne le disent pas en ce moment, et qui vont faire les hypocrites, vont passer devant les caméras sur les barrages aujourd'hui. Les groupes politiques qui siègent au niveau européen, comme le groupe politique Renaissance, le Rassemblement National, les socialistes et les autres libéraux, ont voté récemment pour de nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et le Kenya il y a seulement quelques jours. Ces récents accords ne sont que la continuité de dizaines d'autres qui soumettent les agriculteurs et bien d'autres professions d'ailleurs à la concurrence sauvage des marchés mondiaux. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande en est un exemple récent. Il a été voté fin 2023 par une alliance des macronistes, des socialistes et même des verts. Donc on est loin finalement des discours qu'on peut entendre récemment devant les barrages. Il faut effectivement que les gens puissent vivre dignement de leur travail et ce n'est pas compatible avec cette concurrence déloyale organisée par ces traités de libre-échange qui conduisent à la baisse des produits et au fait qu'un certain nombre d'agriculteurs ne peuvent pas suivre. Il ne faut pas défendre finalement défendre l'avenue de produits venus de l'autre bout du monde, produits qui sont issus de conditions, on peut les appeler climaticides, avec en plus des conditions sociales pour les travailleurs, particulièrement délétères par rapport à ce qu'on connaît en France. Alors un autre exemple, eh bien l'Union européenne a autorisé l'augmentation du commerce avec la Nouvelle-Zélande de plus 30% par rapport à il y a 10 ans. Alors cet accord prévoit notamment la suppression totale des droits de douane, là il n'y en a plus du tout, hein, sur de nombreux produits agricoles, les kiwis, les pommes, les oignons, moi je ne savais pas qu'on n'avait pas de pommes et pas d'oignons en France, le miel, et aussi l'augmentation de contingents importants sur la viande et le beurre, les fromages et le lait en poudre. Alors si je reste sur le lait, eh bien au cours de ces 10 dernières années, la France a perdu 24% de ses éleveurs bovins et 650 000 têtes. Afin de pallier donc à cette baisse continue de la production laitière française, eh bien il y a une importation qui augmente de produits laitiers et en 2019, 29% des produits laitiers consommés en France étaient en réalité importés. Donc ça fait quand même drôle dans les oreilles de savoir qu'on importe massivement des produits laitiers dans un pays comme la France. En pleine crise agricole ces jours-ci, le Parlement européen continue d'approuver de nouveaux traités de libre-échange. Récemment, deux nouveaux accords avec le Chili et le Kenya. Avec le premier, c'est principalement de la viande, ainsi que de nombreux fruits et légumes. Et avec l'autre, le Kenya, les fleurs, les fruits et légumes sont attendus avec cet accord. Donc la Commission européenne s'active actuellement aussi pour conclure des négociations entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc c'est en gros toute l'Amérique latine qui est un bloc qui pèse puisqu'on a quand même des géants de l'agriculture, notamment en Argentine et au Brésil. Alors à qui ça profite ces accords de libre-échange ? Il ne faudrait pas croire qu'il n'y a que des perdants. Que ce soit en France ou à l'étranger, cela profite, mais pas du tout aux petits paysans qui, eux, se trouvent étranglés, mais aux gros propriétaires de centaines, voire de milliers d'hectares qui, eux, organisent les exportations. Il y a également un problème avec l'Ukraine, puisque depuis 2 ans, il y a une ouverture totale des frontières de l'Europe aux importations agricoles à très bas prix avec l'Ukraine, qui font peser de lourdes menaces sur l'agriculture française. Depuis lors, la France importe 3 fois plus de volailles ukrainiennes qu'auparavant, du fait de la suppression des droits de douane dans ce pays. Le problème, c'est que là-bas, ce sont les firmes internationales avec un coût du travail, coût entre parenthèses, 4 à 5 fois inférieur finalement à ce que coûte la main-d'œuvre en France, ce qui crée donc une pression à la baisse sur les prix. Donc finalement, un autre exemple qui n'est pas lié directement à un traité de libre-échange, mais quand même à une décision européenne qui va finalement faire qu'il y a déjà une importation notamment de volailles d'Ukraine nettement plus importantes qu'auparavant et, par voie de conséquence, une mise en difficulté croissante de nos agriculteurs. Et puis, je le redis, mais il n'y a pas de normes sanitaires et environnementales comparables. Elles sont mises à mal. Et puis, il y a les normes sociales. Dans le système actuel, le travailleur kényan qui ramasse des petits pois qui vont être importés en France est en concurrence avec l'agriculteur français qui veut en produire. On voit tout de suite que finalement, ce travailleur kényan n'a pas le même statut, si l'on peut parler de statut, par rapport aux travailleurs de l'agriculture française. Donc le système est vicié. Alors, certains ont réagi et ont fait des propositions. Je pense en particulier à la France Insoumise, qui a défendu une proposition de loi à l'Assemblée nationale le 30 novembre dernier pour instaurer des prix planchers pour les agriculteurs afin de garantir une meilleure rémunération. Cette mesure a été refusée dans les rangs des députés macronistes et aussi des députés républicains, donc ce qu'on peut appeler la droite classique. Une mesure qui aurait été intéressante et qui a été refusée. Alors il faut sortir donc de ce libre-échangisme pour entrer dans un protectionnisme écologique, mais on voit que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Alors l'objectif, c'est de protéger les agriculteurs de notre pays et de relocaliser une large partie de la production agricole pour ne plus dépendre de matières premières produites dans des conditions sociales et écologiques délétères. C'est l'objectif, mais visiblement, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, même s'il y a beaucoup de démagogie dans les discours de ces jours-ci. Alors, il faut se poser les bonnes questions, parmi lesquelles, dans ces bonnes questions, la question de la spéculation. On l'a vu avec le prix du blé, soi-disant à cause de la guerre en Ukraine, qui est monté en flèche, alors que la France n'est pas importatrice, mais est largement exportatrice de blé. Donc on voit ce que ça peut donner, la spéculation, par exemple, y compris quand on est finalement excédentaire en production. J'ai pris l'exemple du blé, du lait. Il y a la question aussi des aides européennes, avec cette fameuse PAC, qui est inégalitaire car elle tient compte de la surface et pas du nombre de personnes qui travaillent. Le propriétaire de 700 hectares touche 7 fois plus d'aide que celui qui en a 100. Donc là, on voit quand même qu'il y a un certain problème. Je n'ai pas pris 700 hectares au hasard, puisque c'est la propriété du président de la FNSEA. Il y a aussi eu quelques ajustements récemment sur la PAC pour moduler un peu les affaires, mais ils sont insuffisants. Aujourd'hui donc, 80% du volume des aides sont données à 20% des agriculteurs. Donc on voit bien que, si on peut dire, ce sont d'abord les gros agriculteurs qui récupèrent les subventions, pour le dire autrement. Il faut aussi se poser la question du pouvoir d'achat pour tous, et quand je dis pour tous, je parle de l'ensemble du monde du travail, lequel a été écrasé ces dernières années, ce qui ne permet pas à ceux qu'ils voudraient d'acheter des produits propres et des produits locaux proposés en circuit court. Se poser aussi la question des marges des multinationales de l'agroalimentaire, je le dis au passage, puisque ce président de la FNSEA dont j'ai parlé tout à l'heure est largement excessionnaire dans nombre d'entre elles. Donc quand on est actionnaire dans l'industrie agroalimentaire, moi ça me fait un drôle aux oreilles de dire que je défends les agriculteurs. Alors se poser aussi les bonnes questions sur le niveau des retraites des agriculteurs qui est très faible. Il l'est parce que le système mis en place incite les agriculteurs à déclarer de faibles revenus du fait de jeux d'écriture avec les investissements. Mais le hic dans l'affaire, c'est quand on déclare de faibles revenus, on paye de faibles cotisations sociales et au bout du compte, on se retrouve avec un niveau de retraite particulièrement faible. Donc il faudrait revoir aussi ce système. En conclusion, il y en a beaucoup. Au rythme actuel, les petites exploitations agricoles disparaîtront au profit des fermes-usines les plus polluantes si l'on continue dans cette voie. C'est une tendance déjà en France, mais c'est aussi une tendance en Europe et dans le monde. Les agriculteurs qui veulent tant bien que mal essayer de produire propre, on dit bio, on dit propre, ne tiendront pas et continueront de mettre fin à leurs jours. Les grands mangeront les petits. L'agriculture est en train de mourir, il est encore temps de la sauver. C'est pour ça que j'ai donné quelques chiffres. Je reviens sur le lait. Pensez que près d'un tiers du lait consommé en France est aujourd'hui importé. Ça signifie bien qu'il y a un gros problème. Alors tout cela, eh bien, ça ne peut pas passer par la signature de nouveaux traités de libre-échange, ni non plus par l'entrée de nouveaux pays au sein de l'Union européenne comme l'Ukraine, qui mettront grandement à mal les agriculteurs français et les autres agriculteurs européens. Donc à l'heure de l'accélération du dérèglement climatique, la France doit pouvoir se nourrir à la hauteur de ses besoins. Et elle doit aussi pouvoir défendre des produits qui sont, disons, mis sur le marché dans des conditions sanitaires, en tout cas moins mauvaises que ceux qui viennent de l'autre bout du monde. Voilà ce que je voulais dire. Et en résumé, une dernière réflexion, eh bien, dans la mobilisation actuelle, il y a au moins une bonne nouvelle. C'est que les CRS ne tapent plus sur les manifestants et qu'ils ne dégagent plus manu militari les barrages. Donc une très bonne nouvelle, puisque ce n'était pas le cas avec les gilets jaunes, ça n'a pas été le cas avec la 69, ça n'est pas le cas pour la bataille sur l'eau autour des mégabassines. Et je vous laisse deviner si c'est ponctuel ou si ça ne va pas durer, avec d'autres manifestations à venir organisées par le monde du travail. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'était exceptionnel et que ça va pas durer, mais l'histoire va nous éclairer. Voilà ce que je voulais vous dire et à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
C'est le triptyque de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.